Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Délivrez-vous pour C'est de zèle. Il suffit parfois d'une étincelle pour embraser les esprits. Il suffit parfois la mort d'un jeune homme également pour embraser les esprits. Il a suffi de la mort de George Floyd aux États-Unis en mai l'année dernière, en 2020, pour que les esprits s'échauffent. Des statues sont tombées, des symboles également qui pouvaient représenter la paix, la justice. En tout cas, pour ce livre très intéressant qui s'intitule « Les statues de la discorde », on va s'apercevoir qu'au-delà de déboulonner ces statues, il y a tout un état d'esprit, toute une forme de revanche au travers de l'histoire. L'histoire d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Pour nous parler de ce livre très intéressant aux éditions Passé Composé, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jacqueline Lallouette. Bonjour Jacqueline Lallouette.
Bonjour Claude Bulgar.
Merci d'avoir accepté mon invitation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité.
Eh bien écoutez, pour ce livre fort intéressant sur les statues de la discorde, je disais aux éditions Passé Composé. Alors tout d'abord, on va un petit peu parler de vous. Qui est Jacqueline Lallouette? Je sais que vous faites plein de choses.
Je suis historienne de formation. Je suis professeure d'université émérite, c'est-à-dire à la retraite.
Oui.
Et j'ai appartenu à l'Institut universitaire de France, dont je suis toujours donc un membre honoraire. Bon, j'ai consacré la plupart de mes travaux à des sujets d'histoire politique, religieuse et culturelle de la France.
Oui.
J'ai travaillé sur l'histoire de la libre pensée en France, sur l'anticléricalisme, sur la séparation des églises et de l'État.
Oui.
J'ai également, je m'intéresse à tout ce qui est donc mémoire, traces de l'histoire, par exemple à travers les fêtes, les jours fériés auxquels j'ai consacré un livre. Je me suis intéressée à l'histoire de Jean Jaurès.
Mmh.
J'ai travaillé sur son assassinat, enfin son assassin et l'assassinat.
Et l'assassinat, oui.
Sur la gloire posthume de Jaurès. Et puis, je me suis également beaucoup intéressée à la statuaire publique sous l'angle de la représentation des grands hommes.
Mmh.
Grands hommes étant une expression consacré,
bien sûr,
qui inclut les grandes femmes.
Oui, grand homme avec un H à l'échelle d'humain. Voilà.
Voilà, c'est ça. Mmh. Mais l'expression grande femme depuis la panthéonisation de Simone Veil.
De Simone Veil.
On commence à utiliser un peu et puis celle de Germaine Dillon, etc.
Oui.
Geneviève Antonios de Gaulle.
Mmh.
On commence à trouver de temps en temps l'expression grande femme également.
On pourrait dire.
À la représentation de ces grands hommes et de ces grandes femmes.
Et alors, si nous sommes galants, nous allons dire de ces grandes femmes et de ces grands hommes.
Si vous voulez, mais enfin, comme il y a beaucoup plus de statuts d'hommes que de femmes,
c'est vrai,
logiquement,
c'est vrai.
Il serait quand même.
Enfin,
il serait mieux de commencer
par
les grands hommes.
Voilà.
Peu importe. Je ne veux pas rentrer dans ces.
Alors, justement.
C'est là pour le moment.
Voilà. Donc, justement, à propos de ces grands hommes, dirais-je. Certains sont érigés sur des stèles, n'est-ce pas, sur nos places de villages, de villes, à travers le monde, pour différentes emblèmes, pour avoir sauvé la République, contre l'esclavage, contre avoir fait le bien des bienfaiteurs, bref, tout un tas de symboles au travers de ces statues. Et votre livre, Les statues de la discorde, eh bien, on en vient à l'année dernière, en 2020, en mai, où là, en France et ailleurs et à travers le monde, et on s'aperçoit que ça va très loin puisque c'est allé jusqu'en Nouvelle-Zélande, on a déboulonné ces statues. D'abord, moi, ce que je voudrais savoir, c'est la genèse de ce livre. Pourquoi s'être intéressé? Alors, ça a été quand même un phénomène à travers le monde qui a quand même été conséquent. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie, ça vous a interpellé, vous avez trouvé là un symbolique ou une forme de message un peu mondial en réaction, entre autres, à l'assassinat de George Floyd?
Mais il se trouve que, comme je vous le disais tout à l'heure, parmi mes centres d'intérêt, il y a eu la statuaire publique.
Oui.
Et en 2018, j'ai publié un très gros livre. livre très illustré relatif à la représentation des grands hommes dans l'espace public français. J'ai travaillé sur près de 4000 statues, avoir accumulé des matériaux pendant des années, des années, des années, parallèlement à d'autres travaux. Donc, vous pensez bien que, après avoir porté un tel intérêt à des milliers de statues, dès que j'entends parler de quelque chose qui concerne une statue, si c'est, surtout si c'est un acte de vandalisme, si c'est une contestation, si c'est une destruction, mon attention est immédiatement en alerte. Et donc, en 2020, dès que, le 22 mai très exactement, dès que j'ai entendu parler de la destruction de deux monuments en hommage à Victor Schoeffer en Martinique. L'un à Fort-de-France et l'autre dans une commune qui a pris le nom de Victor Schoeffer.
Alors, on va rappeler pour les auditrices, si vous permettez, on va rappeler rapidement pour les auditrices, auditeurs, c'est important, qui est Victor Schoeffer. Il a participé à l'émancipation concernant l'esclavage. C'était également un collectionneur. Il a fait énormément de choses. C'était un humaniste aussi. Et puis, moi, j'ai envie de dire que c'était aussi un des fondateur de la République aussi.
Alors, c'est effectivement un républicain convaincu, très jeune. Bon, je me suis intéressée à lui sous l'angle de l'abolition de l'esclavage. Il a découvert l'esclavage, il n'avait rien à voir avec l'esclavage a priori. C'était un jeune homme né en Alsace en 1804, son père était un manufacturier porcelainier, il est donc très loin de tout ce qui a trait à l'esclavage. Mais il se trouve que son père, donc manufacturier de porcelaine, l'envoie faire un voyage d'affaires à Cuba et aux États-Unis. Et c'est dans ces pays qu'il découvre la réalité de l'esclavage en 1830. Il a alors 26 ans, il regarde vivre des esclaves et il publie dans la Revue de Paris en 1830 un premier article sur l'esclavage où il est encore très très loin d'avoir les positions qu'il se forgera au fil des années. En 1830, à la fois il est plein de pitié et de compassion pour les esclaves, mais il n'est pas encore acquis à l'idée de l'abolition. Et quand il regarde vivre les esclaves, il trouve que certains d'entre eux ont des comportements qu'il décrit comme étant abjects et animaux. Mais il ajoute immédiatement que si ces esclaves en sont arrivés à avoir des comportements de cette nature, ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas des hommes tout court, ils sont des hommes comme nous tous, dit-il.
C'est par leur condition.
Ils ont été déshumanisés par leur statut, déshumanisés par les conditions dans lesquelles on les fait vivre. Et les responsables de cet état de fait, ce sont leurs maîtres. Leurs maîtres sont les grands coupables. Ils sont coupables d'avoir déshumanisé ces esclaves. Alors, ces phrases sur les comportements animaux, sur l'abjection, lui seront beaucoup reprochés. Et les gens qui actuellement contestent les monuments à Victor Schoeffer, mais enfin depuis un certain nombre d'années, citent souvent ces phrases, mais omettent de dire ce qu'ils disent.
Oui, on les retire du contexte.
Ils sont des hommes comme nous et les coupables sont
leurs. On prend ce qui arrange.
Pensait des esclaves, etc. Mais progressivement, la pensée de Schoeffer par rapport à l'esclavage, aux esclaves et à l'abolition a évolué.
Bien sûr.
Il a mis du temps pour être acquis à l'idée de l'émancipation immédiate et plénière, parce que pendant un certain nombre d'années, il a pensé que des hommes qui avaient été réduits aux conditions de vie qui étaient celles des esclaves ne pourraient pas d'un seul coup accéder à la liberté, accéder à leur pleine autonomie, qu'ils ne sauraient pas se diriger leur vie. Et donc, pendant un certain nombre d'années, il a pensé qu'il fallait une émancipation progressive.
Progressive, tout à fait.
Mais dès les années 40, il était acquis à l'abolition entière, immédiate.
Oui.
Et quand il a signé, enfin co-signé, parce que le premier signataire du décret d'abolition de l'esclavage du 27 avril 1848 était le ministre de la Marine et des Colonies, François Arago.
Oui.
Lui, qui était secrétaire d'État, a été le second signataire de ce décret.
Mmh.
Et à cette date, en avril 1848, et depuis déjà un certain temps, il était totalement acquis à, à la thèse de l'abolition immédiate et entière.
Et donc aux Antilles, deux statuts le concernant ont été détruites et vandalisées.
Alors, il y a deux statuts qui ont été détruites. Donc, comme je vous l'ai dit, à Fort-de-France
et
dans une commune qui s'appelle maintenant Schulcher, qui avant s'appelait Cazenavire.
Ouais.
Et elles ont été entièrement détruites donc le 22 mai 2020. Et cette destruction est d'autant plus regrettable que la statue de Fort-de-France était une statue de marbre.
Oui, tout en marbre.
Donc,
oui,
une
oui.
fois qu'elle a été précipitée au sol et qu'elle a été brisée, elle datait de 1904. Donc,
oui.
statue du sculpteur Marquet de Vasselot.
Oui.
Donc, une fois qu'elle a été précipitée au sol, ben, elle a été détruite. Elle a été détruite.
Oui.
On peut, quand on détruit une statue de bronze, si on précipite au sol une statue de bronze et qu'on tape dessus à coup de marteau, on l'abîme.
Bien
Mais
sûr.
Si on a un moulage ou une maquette, on peut la reproduire. Pour une statue de marbre, il n'y a pas la même facilité de reproduction.
Oui.
Et donc, il y avait l'autre statue beaucoup plus récente qui se trouve à Schulcher, qui date de 1965, par une sculptrice qui s'appelle Marie-Thérèse Longfou. C'était une statue, j'ai pas pu déterminer exactement le matériau. Enfin, en tous les cas, un matériau fragile, une sorte de plâtre, peut-être de la terre et du plâtre. Une statue entièrement blanche. C'est pareil, elle a été abattue, frappée, totalement réduite en morceaux. Voilà, on ne peut pas la reproduire. Enfin, peut-être que la sculptrice, si elle est toujours en vie, pourrait la reproduire à l'identique, mais enfin, bon.
Alors, donc, à travers le monde et à travers le monde, on s'aperçoit qu'en France, il y en a eu aussi. Aux États-Unis, entre autres, il y a eu Abraham Lincoln. Plus loin, il y a eu en Nouvelle-Zélande, alors James Cook, qui est honni, hein, qui est un peu détesté parce que lorsqu'il a débarqué, je crois, c'est en 1768, il y a eu des Maoris de tués. Plus près de nous, en Belgique, il y a eu également Léopold II,
le roi Léopold II,
qui était appelé le roi bâtisseur. Donc on s'aperçoit que ça a été vraiment une poudrière. Et un filament, une mèche qui s'est enflammée comme ça à travers le monde. Hein. C'est une flamèche qui a couru comme ça. Comment vous expliquez cela?
Bah, de toute façon, c'était quelque chose qui couvait depuis un certain temps. Hein, parce que les membres du mouvement Black Lives Matter qui ont détruit les statues en 2020, après la mort de George Floyd le 25 mai.
25 mai,
donc, postérieurement aux destructions de Martinique. Hein, j'insiste là-dessus.
Tout à
parce
fait.
Que un certain nombre de personnes ont dit que ce qui s'était passé en France était à l'imitation de ce qui s'était passé
non,
aux États-Unis.
C'était postérieur.
C'était antérieur.
Tout à fait. Antérieur.
Donc, la mort de George Floyd, l'assassinat, on va dire.
Oui, l'assassinat de George Floyd le 25 mai. Oui, tout à fait.
Le 25 mai.
Oui.
Et les destructions ont commencé au début du mois de juin. Mais ce mouvement Black Lives Matter, il existait avant 2020. Il s'est formé en 2013. Après l'assassinat d'un jeune homme noir. Et en 2015 et 2017, il y avait déjà eu des contestations et de destructions de statues dans les États du Sud des États-Unis, en Géorgie, en Virginie, etc.
Oui.
Et il y avait déjà eu des attaques contre les statues de généraux confédérés. Christophe Colomb, qui a de très nombreuses statues aux États-Unis, je ne les connais pas toutes, d'ailleurs j'en cite un certain nombre dans mon livre,
tout à fait.
Mais Christophe Colomb est contesté depuis déjà un certain temps.
Oui.
Parce que là où pendant des dizaines d'années, on a vu en Christophe Colomb le premier grand découvreur qui a permis que l'on puisse mieux connaître le monde, qu'on puisse dessiner les contours des continents, connaître mieux la Terre, mais avoir aussi de meilleures connaissances en astronomie, eh bien, Christophe Colomb, tant admiré comme pionnier pendant des décennies, il est devenu, en quelques temps, il est devenu l'homme abominable.
L'homme à abattre.
Qui a provoqué la mort des Indiens et même qui a initié la traite des Noirs. Mmh. Et alors, ce qui frappe Christophe Colomb aux États-Unis, Christophe Colomb est également statué au Portugal, en Espagne, en Italie, mais aussi en France.
En France, oui.
Je n'ai pas trouvé d'autres. Alors, il y a peut-être eu des contestations, mais je n'ai pas découvert de mouvement, enfin, je n'ai pas pris connaissance de mécanismes de destruction des effigies de colons dans ces autres pays, comme j'en ai vu aux États-Unis.
Mmh. Alors, une chose. Une chose à préciser, c'est que, par exemple, à Cuba, la monnaie, le colon, vient de Christophe Colomb. On a appelé la monnaie, la petite monnaie cubaine, le colon.
Ah, je ne savais pas.
Oui, voilà.
Une petite précision. Alors, j'allais vous dire qu'en France, il y a 3 représentations sculptées de Christophe Colomb, dont une assez récente à Rouen, un buste. C'est une dizaine de bustes de grands découvreurs qui ont été sculptés par le sculpteur Jean-Marc Depas, et le buste de Christophe Colomb, pendant le printemps 2020, a été vandalisé à 2 reprises. Une première fois, on a seulement tagué le piédestal en écrivant « raciste, violeur, assassin », etc. Ouais. Et à la deuxième reprise, on a entièrement peint son visage en rouge. Les contestataires ont beaucoup utilisé la peinture rouge contre les statues, pas exclusivement rouge, mais beaucoup de peinture rouge qui est à la fois le symbole de la honte et du sang.
La honte et du sang, oui. Et de la colère aussi, certainement.
Colère.
Mais ce qui est quand même, ce qui est très étonnant aux États-Unis aussi, Abraham Lincoln n'a pas été épargné.
Alors, aux États-Unis, les premières statues qui ont été vandalisées ont été celles des généraux confédérés du Sud, pour une raison que l'on comprend bien, en rapport avec l'histoire de l'esclavage. Mais on a aussi vandalisé les statues donc de Colomb, des statues de missionnaires. Il y a plusieurs missionnaires espagnols du côté du Nouveau-Mexique et du Texas et de la Californie qui ont été vandalisés, notamment les statues de Saint Junipero Serra. Et puis maintenant, enfin depuis quelques mois, enfin ça a été un petit peu plus tardif par rapport aux autres, on s'en est pris aux statues de Washington,
Abraham,
de Jefferson,
Abraham
de Lincoln. Donc vraiment tous les pères fondateurs des États-Unis. Alors, Washington et Jefferson, on leur reproche d'avoir eu des esclaves. Pour Washington, on lui reproche de ne pas avoir affranchi ses esclaves. Et Lincoln, qui en 1863 a fait abolir l'esclavage aux États-Unis, lui est contesté et détesté par un certain nombre d'Américains à cause des Amérindiens. Parce que en 1862, je crois, il y a eu une grande révolte dans le nord des États-Unis. Il y a eu une grande révolte d'Indiens Sioux, plus précisément d'Indiens Dakota.
Dakota, oui.
Qui s'en sont pris à des colons blancs, il y a eu des massacres. Bref, il y a eu une grande opération de répression lancée par l'armée américaine. De nombreuses arrestations, enfin l'arrestation de nombreux Indiens Dakota. Et 303 d'entre eux avaient été condamnés à mort. Et on a soumis à Lincoln une liste de 303 noms d'Indiens qui devaient être pendus. Il a refusé de signer l'ensemble de cette liste, mais il a quand même donné son accord. Alors, est-ce qu'il voulait quand même donner un motif de satisfaction à ceux qui réclamaient la mort des Indiens? Est-ce qu'il a pensé que vraiment il méritait cette sanction, je n'en sais rien.
Il avait demandé, apparemment, il avait demandé non pas une exécution, mais des punitions, pour faire des exemples, mais sans de mise à mort, visible, apparemment. Vous voyez, j'ai un petit peu regardé, j'ai un peu lu, mais voilà, pour ménager un petit peu le chèvre. Mais il n'avait pas demandé l'exécution des trois en trois indiens.
Non, il n'a pas voulu, justement. Oui. Il a refusé de signer cette liste des 303 noms, mais il a accepté de signer la condamnation à mort de 38 indiens. Et donc, ces 38 ont effectivement été pendus.
Été pendus, oui.
Et c'est à cause de ces 38 indiens pendus qu'actuellement Lincoln est totalement contesté.
Contesté. Ouais.
Et il avait une statue, enfin entre autres statues, il en avait une à Portland.
Ouais.
Et c'est cette statue de Portland qui a été abattue pendant l'été ou au début de l'automne. Et sur donc il est vraiment tombé nez contre le sol.
Oui. Ouais.
Et sur le piédestal, il y a écrit Dakota 38.
38, oui.
Pour rappeler donc
Vous rendez compte, Jacqueline Lalouette, le poids de l'histoire après plus de 200 ans.
Ben oui, bien sûr, mais là, le poids de l'histoire, si vous voulez, le poids de l'histoire, il est, comment dire, c'est dans, je viens de vérifier, Portland, c'est dans l'Oregon.
Oui, Oregon, oui.
Le poids de l'histoire, il est, comment dire, présentisé, j'allais dire, rendu présent par l'existence des statues, justement, et de leurs inscriptions. Il n'y aurait pas eu... D'ailleurs, la statue de Portland n'est pas la seule qui a été vandalisée. Mmh. Il y a d'autres... Je me demande s'il n'y en a pas une... À New York, enfin, je ne sais plus. Bon, j'ai traité tout ça dans mon livre. En tous les cas, celle de Portland, ça a été assez spectaculaire. Mmh. La statue est vraiment tombée, mais vraiment front et nez contre le sol. Hein. Mmh.
Mais voilà. au-delà de tout cela, on a parlé rapidement de ce qui s'était passé à travers le monde, des États-Unis. On a parlé de la Belgique, la Nouvelle-Zélande, en France, bien évidemment. Mais comme ça laissera le plaisir aux auditrices, auditeurs de découvrir tout cela dans votre livre. Qu'est-ce que ça dit pour vous? Moi, j'avoue que quand j'ai lu votre livre, j'avais connaissance d'un certain nombre de choses, mais de pas tout, bien évidemment. Donc, d'où l'intérêt de votre livre. Ça permet d'aller au devant d'un certain nombre de choses. Moi, ça m'a quand même fait frémir parce que, au-delà de plus de 200 ans, on déboulonne encore des statues, on en veut encore aux gens, on s'aperçoit aussi que pour d'autres choses, la guerre de sécession n'est jamais loin, que pour nous, la monarchie, enfin, vous voyez, il y a tout un, j'ai l'impression qu'il y a un amalgame de choses et que finalement, aujourd'hui, on récupère un certain nombre de choses, on se rend compte que, alors qu'il y a tellement d'autres choses à traiter. Et pourtant, c'est très présent encore. C'est ça qui est incroyable.
Alors, d'une part, c'est très présent, mais il ne faut pas oublier que ces statues, elles sont restées tranquilles sur leur piédestal pendant des dizaines d'années.
C'est vrai aussi, oui.
Sans que personne ne dise rien. Ou au contraire, les honore.
Oui.
Parce que pendant des décennies, par exemple, pour les statues de Victor Schœlcher, il y avait des cérémonies annuelles, des dépôts de fleurs.
Bien sûr, oui.
Enfin, il y avait vraiment des cérémonies festives.
De la reconnaissance.
De gratitude pour ce qu'avait fait cet homme. Bon, là-dessus, comme vous le savez, comme vos auditeurs et auditrices le savent, eh bien, depuis un certain nombre d'années, voire de décennies, il y a des mouvements antiracistes, anti-esclavagistes, des colonialistes, des coloniaux, bon bref, tout ce que vous voulez, qui reprennent, et c'est dans certains cas, c'est tout à fait justifié, hein, qui relisent cette histoire de l'esclavage, qui relisent également l'histoire de la colonisation, et qui veulent remettre à la surface des choses qui étaient enfouies, ce qui est vrai pour certaines.
C'est vrai.
Si je prends, par exemple, pour revenir au cas de Victor Schœlcher, qui est assez emblématique, c'est vrai que Victor Schœlcher était loué pour l'abolition de l'esclavage, fêté, glorifié, etc. Et en glorifiant Schœlcher, on omettait de mentionner que d'autres personnes s'étaient battues pour l'abolition de l'esclavage, à savoir les esclaves eux-mêmes, qui avait mené un certain nombre de révoltes. On avait oublié, on ne tenait pas compte de l'existence des nègres dits nègres marrons, c'est l'expression consacrée.
Tout à fait, les marrons,
nègres
oui.
Marrons, marrons venant d'un terme espagnol pour désigner des noirs qui étaient en fuite.
En Jamaïque, d'ailleurs, en Jamaïque, c'est ce qu'on disait.
Hein, on peut mettre des guillemets.
Tout à fait, bien évidemment.
Consacrée.
Bien évidemment.
Effectivement, contribuait. À faire régner un esprit de révolte et un esprit de lutte contre l'esclavage. Mmh. Et au moment où l'esclavage a été aboli par le décret du 27 avril 1848, l'impatience des esclaves noirs qui ont été au courant de la signature de ce décret à Paris, eh bien, l'impatience de tous ces noirs marrons en fuite ou bien des noirs présents sur les plantations, s'est éveillé, vous voyez.
Oui,
et
oui.
Là, il y a eu une grande révolte qui a éclaté les 22 et 23 mai 1848. Et du coup, l'abolition qui aurait dû devenir effective en Martinique seulement à partir du mois de juin, parce qu'on avait laissé un délai entre la date de signature du décret et l'application effective, du coup, l'abolition a été avancée très exactement de 70 jours à la suite de l'action des esclaves.
Des esclaves.
Et donc, ce que les contestataires de Victor Schœlcher lui reprochent, c'est le fait que son image, son souvenir, ait totalement supplanté celui des Noirs.
Ouais, oui,
qu'on ne parle plus que de Schœlcher, en omettant de mentionner que les esclaves eux-mêmes, ils ont joué un rôle. Mmh. Vous voyez ?
Très bien. En tout cas, c'est un livre fort intéressant. Au travers de cette discorde sur les statues, c'est une véritable leçon d'histoire au travers des statues. Donc, c'est fort intéressant. Je vous remercie infiniment. Quels sont vos prochains projets ?
Ah, pour le moment, je suis en train de travailler sur un essai qui porte sur l'identité républicaine de la France. Je dis bien identité républicaine de la France, qui est une expression qui surgit beaucoup pour le moment, surtout avec le projet de loi sur le renforcement du respect des principes républicains. Mmh, enfin, c'est un projet que j'ai en tête depuis plusieurs années.
D'accord,
déjà.
Ok.
Alors, c'est pas identité nationale, c'est pas identité française, c'est identité républicaine de la France.
D'accord.
Voilà.
Eh ben, écoutez, on vous retrouvera sans doute avec beaucoup de plaisir. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Les statues de la discorde aux éditions Passé Composé avec Jacqueline Lalouette. Je vous remercie infiniment pour ce bel entretien avec j'enjoins donc chaque auditrice et auditeur à lire votre livre. Et je vous dis à une prochaine fois. Merci Jacqueline Lalouette.
Je vous remercie beaucoup pour votre invitation.
Merci.
Au revoir.
Bonne
fin de journée.
Merci
au
vous
revoir.
Aussi. Au revoir.
Au revoir.
Depuis le temps que Paris impose sa loi à ceux du nord au midi qui n'en veulent pas. Leur maudite révolution ne leur suffit pas. S'ils tuent la reine comme le roi, on va leur faire payer ça. Chouan, en avant, passe à demi, passe à Jean. Robespierre, l'odieux tyran, roulant ce loup sanguinaire dans son propre sang. Je dis que la République n'en a plus pour longtemps. Nous ramènerons la foi, nous serons un